Bienvenue sur la chaîne Ambiance, architecture, urbanité, AAU.
Alors, donc pour lancer cette première table ronde, peut-être quelques questions pour introduire ces éléments, peut-être nous raconter un petit peu votre parcours d'abord, et puis peut-être de préciser un petit peu les terrains que vous investiguez actuellement, les objets que vous travaillez, les observables, et puis comment finalement cette question de l'ordinaire, elle traverse vos terrains, en tout cas en quoi finalement les terrains sur lesquels vous travaillez, les objets que vous analysez, pourraient relever de l'ordinaire par exemple. Voilà un petit peu pour ces premières questions. Je ne sais pas qui peut lancer.
On va commencer par la gauche.
Ok, c'est Jean Favreau au micro, donc, doctorant au créneau à l'EDSTT. Comme Nathalie l'a introduit, je travaille sur les moyens et les acteurs du développement du système vélo dans la région nantaise. Pour commencer, un petit mot sur mon parcours qui s'est déroulé, je dirais, autour de plusieurs thématiques, notamment la conception des espaces par des études à l'école d'architecture de Nantes, mais aussi par un certain déterminisme familial, puisque je suis né dans une famille de cyclistes. Et à partir de là, via la pratique du cyclotourisme ou du vélo quotidien, j'ai commencé à lier ces deux axes de travail, je dirais, tant la pratique du vélo que la conception des espaces, pour réfléchir et en fait aboutir à ce parcours de recherche. Donc en fait, ma trajectoire personnelle s'oriente autour de trois grands axes qui sont une pratique du vélo quotidienne et pas seulement du vélo utilitaire mais aussi du vélo plus sportif, de la compétition et ainsi de suite. Un engagement associatif aussi autour du vélo via l'engagement dans des associations d'auto-réparation du cycle ou des associations sportives, et enfin la pensée des espaces et des conditions de circulation des cyclistes. Ces trois grandes orientations se sont retrouvées notamment à l'école d'architecture de Nantes lors du mémoire de master qui m'a porte d'entrée finalement dans la recherche et qui m'a permis de lier ces considérations personnelles et ces orientations. Finalement, le mémoire, il m'a permis de tester des méthodes et notamment une ethnographie des pratiques cyclistes proches du travail des itinéraires de Jean-Yves Petitot, où je suivais différents cyclistes en les filmant et en les interrogeant sur leur parcours du quotidien et leur trajectoire sur la question des mobilités et du vélo. Voilà, et donc à partir de là, cette porte d'entrée de mémoire, un intérêt grandissant pour la recherche et particulièrement pour la question de la cyclabilité du territoire. Ce qui m'a poussé, suite à ce mémoire, à faire un stage au créneau où j'ai pu découvrir ce que c'était que de faire une thèse. Et pour continuer dans ce questionnement autour de la fabrique des espaces de la cyclabilité, j'ai pu poursuivre sur un stage à Nantes Métropole dans le service des services déplacements. Enfin, à Place au Vélo Nantes, donc une association, l'association nantaise de promotion du vélo principale. Ce qui m'a permis de voir finalement, tant chez les acteurs institutionnels que chez les militants, comment se réfléchissait un peu la fabrique des espaces cyclables. Suite à ça, il y a eu trois années un peu en creux de recherche de financement pour démarrer cette thèse, où j'ai pu quand même travailler en tant qu'architecte, pratiquer en tant qu'architecte, et quelquefois sur des questions de vélo aussi, notamment de plan de circulation, de définition de schéma directeur vélo. Voilà. Et enfin, j'ai pu démarrer cette thèse en chiffres, comme ça a été précisé, au sein de Place au Vélo Nantes, qui est donc avec un montage particulier, puisque Place au Vélo est financée d'une part par la Nantes Métropole et d'autre part par le département de Loire-Atlantique, pour héberger ma thèse en CEMUR, ce qui donc pousse à avoir cette vision sur des territoires urbains, périurbains et ruraux, pour couvrir, je dirais, les zones d'intérêt des financeurs. Voilà. Et donc, dans cette question du système vélo, mon champ de recherche s'intéresse plus particulièrement à la question des aménagements cyclables et aux coulisses de la fabrique de ces aménagements cyclables. Donc la CIFRE, c'est donc de la recherche-action. Ça donne accès à une multitude de terrains qui déclinent de plusieurs manières. Il y a en premier lieu les organisations que je peux côtoyer au quotidien, que ce soit l'association, la collectivité, des groupements citoyens. Mais il y a aussi des terrains sous forme de territoire, que ce soit des intercommunalités ou un peu plus précisément certains projets d'aménagement cyclable. Donc le terrain principal, c'est Place au Vélo Nantes, l'association, qui est une association particulière du point de vue des associations pro-vélo, puisqu'elle travaille sur les quatre grands champs d'action des associations vélo, à savoir le plaidoyer et les aménagements cyclables, de la vélo-école, un brico-vélo, donc un atelier d'autoréparation pour permettre aux adhérents d'apprendre la vélonomie et de devenir autonomes dans leur mobilité. Et enfin, l'événementiel avec l'organisation de fêtes du vélo, de bourses au vélo et d'autres événements pour faire la promotion du vélo. Et en plus de ça, elle a une particularité supplémentaire par rapport aux autres associations du territoire national, c'est qu'elle héberge en ses murs le collectif Vélo Pays de la Loire, qui est une structure qui gère un réseau associatif au niveau régional, qui contient donc 32 associations. Donc l'objet de Place au Vélo, c'est de promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport au quotidien. Et c'est une association importante, puisqu'il y a 10 salariés et un millier d'adhérents, dont une centaine d'adhérents actifs, mais sur, comme on l'a vu plus tôt, des champs d'action très variés. Donc de la vélo-école scolaire enfant-adulte, de l'accompagnement d'entreprises dans les plans de mobilité, de l'animation... de formation aussi, des actions militantes sur l'espace public, des conseils auprès des usagers cyclistes pour les aider dans leur pratique, notamment quotidienne. Et enfin, ce dans quoi je suis engagé, du plaidoyer auprès des collectivités pour une meilleure prise en compte du vélo et des cyclistes dans les politiques de déplacement. Et donc cette action-là se fait au travers d'une commission qui s'appelle la commission aménagement, et donc qui est un terrain dans le terrain. Donc cette commission aménagement, c'est un groupe de bénévoles qui va synthétiser l'expertise d'usage des cyclistes sur le terrain. Et donc pour ça, il y a divers canaux, notamment des canaux de signalement. Au quotidien, l'association va recevoir des signalements d'usagers en déplacement sur des défauts d'aménagement, des incivilités. Et pour ça, elle a mis en place divers outils. Donc il y a évidemment des boîtes mail, le téléphone, des réseaux sociaux. Mais il y a aussi une plateforme en ligne, Vigilo, où on peut remplir avec une application un signalement. Et on a aussi, et c'est au niveau national, l'utilisation du baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette, où sur une cartographie, on a toute une série de points rouges signalés par les cyclistes qui ont répondu à ce baromètre. Et donc à partir de tous ces signalements, qui regroupent divers sujets, hein, comme je dis plutôt, de l'incivilité, des aménagements qui sont mal conçus, des aménagements absents, des défauts de voirie, de marquage, du mobilier manquant pour les cyclistes, du manque de stationnement par exemple, l'association et la commission aménagement particulièrement va faire toute une série de signalements et de remontées auprès de la collectivité, soit pour une prise en charge rapide de détails d'aménagement, quand c'est un potelet mal placé, un trou dans la voirie, mais ça peut être aussi de constituer des dossiers plus importants avec le passif de certains aménagements pour demander une amélioration sur du linéaire d'aménagement, donc à l'échelle de la rue, voire à l'échelle de la métropole quand il s'agit d'axes structurants, puisque la métropole a mis en place conjointement, si on peut dire, en tout cas avec l'avis de Place au Vélo, deux documents importants qui sont le schéma directeur des itinéraires cyclables et le référentiel des aménagements cyclables, qui sont deux documents qui forment la doctrine en termes d'aménagement du vélo pour la métropole. Et donc l'association est là pour s'assurer que cette doctrine est respectée, notamment dans les projets à venir. Et donc, pour s'assurer en fait de ça, on a des temps de réunion assez variés aussi avec la collectivité, à commencer par des temps de concertation avec le comité des partenaires de la mobilité, qui est obligatoire puisque la métropole a la compétence d'organisation des mobilités, mais des temps de réunion un peu plus poussés, des réunions techniques, notamment avec le service mobilité active, où on va échanger directement sur des projets à venir, des projets en cours, de la programmation d'itinéraires cyclables, de la réflexion sur des plans de circulation. Et en fait, ces temps de réunion technique vont permettre de faire des échanges pour faire monter en qualité et du point de vue des usagers, les aménagements cyclables. Puisque là, la recherche s'oriente du fait d'être dans cette association d'experts usagers, ça s'oriente sur l'ordinaire de l'usage, je dirais. Et donc, voilà, cet ordinaire, en fait, il se décline de différentes manières, en fait, notamment par rapport à cette vue transversale de l'urbain au rural. Ce qui est ordinaire du point de vue de l'usager cycliste en milieu urbain, notamment à Nantes, qui est relativement développé en termes de cyclabilité, ne l'est pas autant dès qu'on va s'approcher des franges où les cyclistes commencent à arriver, et quand on va dans le milieu rural où finalement c'est presque extraordinaire de voir des cyclistes du quotidien. Voilà, en fait, déjà il y a cette figure du cycliste du quotidien qui peut être ordinaire ou non selon le territoire auquel on se réfère. Ensuite, pour dézoomer un peu, l'ordinaire aussi, il se décline dans le déplacement. C'est l'ordinaire du déplacement, du quotidien, qui a lieu dans des systèmes de mobilité, donc qui sont sur les territoires, et donc ces systèmes de mobilité sont constitués de réseaux, de services, de véhicules et de règles. Moi, je m'intéresse particulièrement aux réseaux dans ma recherche, et donc à l'aménagement cyclable, et au quotidien des usagers sur ces réseaux de circulation, qui sont des réseaux partagés, et dans lesquels il y a une grande concurrence entre les modes de transport. Donc là, on parlait de conflits d'usage tout à l'heure, on peut tous citer, je pense, des conflits d'usage, sur le partage de l'espace public et ces conflits d'usage qu'on retrouve au quotidien entre les usagers de la voirie se retrouvent aussi dans la collectivité, entre les services, sur une certaine forme de lutte, vraiment de concurrence pour faire en sorte que la mobilité défendue par un service puisse obtenir le plus d'espace, le plus de fonds, voilà. Pour donner un exemple assez rapide, on a par exemple des travaux qui vont être effectués au niveau d'un grand carrefour nantais à feu avec plusieurs voies, où les cyclistes actuellement ont du mal à traverser les voies de circulation pour changer de direction. Donc, pour les Nantais, c'est au niveau du pont de la Tortière, du boulevard des Belges et du boulevard Félix Lemoine. Et donc, la métropole nous présente un premier projet, présente à l'association. Je dis nous, étant dans cette position de recherche-action, la métropole nous présente un projet qui n'est pas satisfaisant du point de vue des usages. Et donc, à partir de là, va se jouer une série d'arbitrage et d'argumentation sur la manière dont on peut adapter ce projet qui est déjà avancé puisqu'en phase AVP, dont on va pouvoir arbitrer la place du cycliste quand il y a des contraintes plus élevées et notamment d'usage des transports en commun. Voilà, en sachant que cet axe est un axe magistral de circulation des cyclistes, donc il doit respecter un certain nombre de prérogatives qui sont issues des documents que j'ai évoqués plus tôt, le référentiel des aménagements cyclables. Dans le cadre aussi de la ville A30 à Nantes, où cet axe est conservé à 50 à l'heure pour le besoin des transports en commun. Et en fait, on se rend compte petit à petit dans cette réunion que la marge de manœuvre pour faire évoluer l'aménagement et permettre un usage sécurisé et confortable pour les cyclistes est complètement bloquée du fait du pouvoir, je dirais, qu'a la circulation des transports en commun sur cet espace. À savoir que les bus ont besoin d'un certain rayon de giration pour tourner dans les carrefours et donc empêchent de diminuer l'étendue de bitume et donc de faire des angles de giration plus courts au niveau des carrefours, au niveau des trottoirs. Et ils ont besoin aussi d'une circulation fluide et notamment automobile pour ne pas être bloqué, ce qui a poussé sur ce carrefour à conserver plusieurs voies de circulation. Ce qui est en contradiction non seulement avec les objectifs de Villa 30, avec l'apaisement de la circulation et avec les préconisations dans ce référentiel des aménagements cyclables. Voilà, donc en fait, la question de l'ordinaire, elle est traversée de plusieurs manières, tant du point de vue de l'usage et de l'usager, qui est le prisme par lequel j'aborde cette recherche, mais aussi au sein de la collectivité, qui plus en plus permet à l'association en fait, de rentrer dans le processus de construction des aménagements cyclables, et donc agir, et finalement ce service mobilité active qui est plutôt, je dirais, en co-construction avec Place au Vélo, décale un peu le débat depuis, depuis le militantisme de l'association envers la collectivité, mais ce militantisme il passe à l'intérieur de la collectivité, entre services, entre élus, et le service mobilité active de notre métropole semble se servir de l'association et de l'énergie de l'association et de cette approche par les usages pour convaincre les autres services, les élus, de créer d'une autre manière, de réfléchir d'une autre manière la programmation et la conception des aménagements cyclables, et notamment pour respecter les documents que j'ai cités précédemment. Et je laisse la parole à Solal.
Merci Jean. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous offrir un peu cet espace de discussion et de débat. Autant merci aux discutants qu'aux organisateurs. Donc pour ma part, Solal Lambert-Wiserat, je suis doctorant ici depuis janvier 2022. Pour faire un bref retour de parcours afin de savoir qui parle et depuis quelle posture, peut-être vous dire en quelques mots que pour ma part, je suis juriste, c'est-à-dire que j'ai fait la faculté de droit de Nantes, une licence très classique, et j'ai rencontré le monde de l'urbanisme à travers le master Ville et Territoires, et donc la rencontre de l'école d'architecture de Nantes et du laboratoire Créneau plus tardivement lors du master 2 à travers un stage de recherche effectué au sein de ce laboratoire justement sur la question de cette instruction des autorisations d'urbanisme. Ça s'inscrivait dans, petit aparté parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, le programme POPSU 3 à l'époque sur les métropoles. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde des études urbaines et aussi dans cet attrait, pour ma part, de mettre en dialogue un petit peu le bagage positiviste, disons-le, que j'ai pu acquérir, de connaître une norme, la lire, l'interpréter, etc., former un bon juriste praticien, mais pas forcément théoricien. Puis, ce deuxième volet de l'approche urbanistique lors du master. Donc, ça a un peu renforcé aussi cette envie pour poursuivre la question de l'étude de l'instruction des autorisations d'urbanisme à travers cette thèse, donc co-encadrée par Laurent et Élise. Donc voilà, mettre au service l'étude juridique, au service des études urbaines, ça s'est fait aussi grâce à une découverte, parce que je n'ai pas de rapport très fantasmé hein, à ce sujet, je ne suis pas tombé dans l'instruction quand j'étais petit, ni quoi que ce soit. C'est plus à travers justement des lectures tardives en master, comme par exemple La Fabrique du droit de Bruno Latour, qui avait fait une ethnographie du Conseil d'État, pour un peu voir les méandres de l'étude juridique qui pouvait s'y faire, à travers ses outils, ses différents acteurs, etc. Qui a un petit peu renforcé cette envie d'aller opérer la même chose dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, et donc atterrir ici dans les collectivités, dans les services instructeurs et instructrices. Voilà donc pour la présentation générale. Ensuite, sur la question du sujet en tant que tel, eh bien, pour reprendre les mots d'Élise dans sa présentation, on est ici, à travers ce sujet, dans l'ethnographie de la fabrique urbaine ordinaire. On est ici dans même l'urbanisme ordinaire, puisque ce qu'on va regarder à travers ça, majoritairement, dans les dossiers, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'urbanisme ordinaire, l'urbanisme dit réglementaire, hein, souvent mis en opposition avec l'urbanisme dit de projet. Mais tout ça, c'est à déconstruire, on le fera, je pense, pendant la discussion, peut-être. Donc voilà, aller observer un petit peu cette fabrique-là, dans le but de la faire parler, loin de justement l'ordinaire du grand projet, on est plus ici dans la petite opération, en étudiant les acteurs au travail. Qu'est-ce que c'est quand on parle d'instruction des autorisations d'urbanisme? Peut-être très brièvement, on se situe ici dans les services des collectivités parce qu'il y a eu un transfert historique de cette compétence d'instruction-là de l'État vers les collectivités depuis 40 ans, à marche forcée, à coup de désengagement, et en parallèle de montée en compétence des métropoles, ce qui fait qu'on se retrouve ici pour monter une enquête à la métropole nantaise et dans ses différentes communes. Donc voilà, on est dans ce contexte de l'action publique urbaine-là, avec un atterrissage peut-être historique sur un assouplissement de l'écriture des règles normatives, des documents d'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient intercommunaux ou pas. En l'occurrence, à Nantes, évidemment, ça l'est, c'est un PLU. Donc cet assouplissement des règles et un encouragement d'outils juridiques pour faire urbanisme dit de projet. Donc jeu de négociation, mais là j'insiste pas là-dessus parce que ça a été déjà bien écrit et bien raconté, de négociation entre la promotion immobilière et l'action publique locale. Déjà eu assez de thèses sur ce sujet et même d'ouvrages. De même, jeu de négociation dans l'écriture de ces règles à travers des transactions entre élaboration de réglementation pour délivrance de droits à bâtir et intérêts politiques et financiers locaux. Là-dessus également, pas mal d'écritures, mais rester impensé ce quotidien-là, le quotidien de l'instruction. Se dire au quotidien, pour l'ensemble des petites opérations, même des grandes, mais là, se joue à un autre niveau, donc je vais me permettre d'insister sur les premières. Que se passe-t-il? Y a-t-il négociation? Si oui, comment et par qui? Et dans quel degré, on va dire, de marge de manœuvre. Donc voilà, c'est à travers toutes ces questions-là qu'on a pu arriver dans ce terrain-là, et puis dans ces premières réflexions. Donc aujourd'hui, pour un petit peu essayer de stabiliser la réflexion en cours, se pose la question de voir si cette instruction des autorisations d'urbanisme-là, qui est quand même historique, hein, qui existe depuis les années 50, depuis 1947, qui a pas mal évolué depuis, mais est-ce qu'on est face à une réémergence, à une reconfiguration de cette instruction comme une nouvelle étape, un nouvel espace de production de la ville? Et pour ma part, depuis un an maintenant de terrain d'enquête, j'avais envie d'axer le regard vers l'attention aux détails. Et pourquoi l'attention aux détails? Et on y reviendra tout à l'heure, je pense, c'est que c'est là que se joue beaucoup d'espace de discussion autour des projets déposés par les pétitionnaires. Et quand je dis pétitionnaires, c'est au sens large. On parle là du petit propriétaire, soit seul, soit accompagné d'une expertise technique, hein, architecte, géomètre expert, nouvelle figure hein, de dépôt des autorisations d'urbanisme et d'accompagnement des projets de construction, autant que un petit peu plus à grande échelle, du petit promoteur, de collectif, voilà, etc. Donc on arrive à cet endroit-là, et pour le terrain d'enquête et les espaces observés, pour ma part, j'arrive en tant qu'observateur extérieur, puisque, pardon, j'ai oublié d'aborder cette étape, mais c'est une thèse qui est par chance financée, par contrat, mais contrat doctoral d'État, donc ce qui veut dire que je n'ai pas de rapport avec la métropole directe, par un rapport salarié ou quoi que ce soit. Donc j'arrive en tant qu'observateur extérieur dans les services. Service, et là je permets la précision aussi, de trois collectivités locales, trois villes, et service d'un pôle de proximité, donc qui lui est métropolitain, rattaché au service de la métropole, mais instruisant pour le compte de 8 petites communes du sud-ouest de la métropole nantaise qui n'ont pas l'ingénierie dans leur service pour le faire eux-mêmes. Là encore se passent d'autres rapports et c'est presque un espace à part entière. Bref, la précision étant faite, sur les terrains observés, les espaces observés à l'intérieur de ces collectivités, pour ma part, on se situe plus sur les réunions de service qui sont fondamentales. Ce sont des réunions qui sont hebdomadaires entre les instructeurs et instructrices et le directeur de service et qui servent à mettre en discussion les projets instruits, en cours d'instruction plutôt, pardon. Et c'est ici que se passent énormément de choses en termes de confrontation d'expertise, où des fois le directeur est en retrait parce que c'est l'instructrice, l'instructeur le plus qualifié, c'est-à-dire qui est là depuis assez longtemps pour maîtriser les termes, les normes, les techniques, qui va mettre en avant son expertise pour proposer la conclusion du dossier. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse, est-ce qu'on accepte sous condition? C'est là aussi que se crée une doctrine des services. Comme je le disais plus haut, on est dans un contexte d'assouplissement des règles d'urbanisme, ce qui va permettre justement d'adapter certains projets avec une culture du service local, cette fameuse doctrine. Parce que l'espace est laissé. On ne répond plus de manière binaire aux dossiers soumis. Est-ce que oui, vous pouvez construire à 3,5 mètres de hauteur? Est-ce que oui, vous pouvez construire à 6 mètres de retrait? Mais on va laisser une marge de manœuvre en disant peut-être que dans ce contexte-là, si on regarde le quartier, si on change d'échelle, on ne regarde plus la parcelle mais son voisinage, on peut justifier une dérogation de la règle à l'intérieur de la règle, c'est-à-dire à l'intérieur du plan local d'urbanisme. Et cette marge de manœuvre-là va permettre justement d'ouvrir un nouveau champ de l'expertise, parce qu'il va falloir créer doctrine pour éviter de s'emmêler les pinceaux en fonction des projets et de faire des projets qui n'auront aucun sens dans la continuité politique de l'instruction de ces dossiers-là. Donc ça, c'est un espace assez fondamental que j'observe au quotidien. C'est là où je vais de manière assez répétée dans ces temps hebdomadaires-là des trois communes et du pôle de proximité. Et le deuxième espace, j'en ai listé trois. Deuxième espace, ce serait l'instruction au guichet, pour reprendre un petit peu le courant de la street level bureaucratie, j'en reparlerai tout à l'heure. Cette instruction au guichet-là, on sort un petit peu de l'étude traditionnelle, hein, peut-être de la sociologie de l'action publique au guichet, parce qu'il n'est pas forcément matérialisé. Et d'autant plus depuis le Covid. Ça a été assez documenté sur l'évolution de l'action publique depuis cet épisode-là. On n'est plus forcément dans un guichet qui est matérialisé, donc avec quelqu'un dans un bureau prêt à recevoir les visiteurs demandant des conseils ou venant déposer un dossier. On est dans l'échange de mails, on est dans l'échange téléphonique, on est dans la prise de rendez-vous. Ce qui va cercler l'espace de débat et cercler les sujets discutés. Ce qui va permettre donc à la collectivité d'avoir une maîtrise un peu plus importante, plus forte, sur la conduite du projet, justement, ou la conduite de l'opération, en tout cas du petit projet. Donc voilà, deuxième espace. Et troisième espace, les visites de terrain. Et là, on va rentrer dans peut-être le sujet de l'ordinaire, mais on en reviendra dans la discussion, je vais essayer d'être court là-dessus. Mais en tout cas, ces visites de terrain-là, c'est quand les instructeurs-instructrices vont partir dans la commune, soit en profitant d'une destination, par exemple un rendez-vous avec le pôle de proximité ou quoi que ce soit, mais en tout cas partir dans la commune en voiture, faire des constats, des opérations en cours et du chantier pour voir si tout est conforme à la déclaration, c'est-à-dire à l'autorisation d'urbanisme déposée. Et c'est là que se joue aussi un autre espace de, certes, sur le papier, on a eu tel plan, dans le CERFA, la fameuse autorisation administrative, on a eu telle déclaration, mais quid de la réalité, quid de la matérialité du projet et de comment il évolue. C'est là aussi que vont se jouer beaucoup de choses dans un nouvel espace d'échange qui va se faire parfois même en amont de l'autorisation rendue, en amont de la cristallisation juridique de dire vous avez le droit ou non, où les instructeurs et instructrices vont aller voir les pétitionnaires sur leur chantier et aller discuter, négocier sur place, donc hors du droit, parce qu'on est dans un espace d'échange informel là. Ça me semblait important de le souligner aussi, parce qu'on pourra en discuter tout à l'heure justement, se joue énormément de choses en termes de maîtrise de l'action publique par les agents. Donc voilà ces trois un peu grands espaces étudiés, ce qui va servir aussi et ça c'est une réflexion en cours, à questionner le récit de l'urbanisme dit négocié, ce qui est un peu une ritournelle des politiques publiques urbaines aujourd'hui, mais quid de cette négociation-là dans le quotidien, dans l'urbanisme réglementaire, dans les petits projets, dans l'urbanisme en fait diffus, dans la ville en train de se faire sur elle-même. Voilà pour cette grande présentation-là, et peut-être pour terminer, pour éviter de trop m'étendre là-dessus, et qu'on se transforme justement en présentation un peu trop linéaire, un peu aborder la question de l'ordinaire. J'avais identifié, suite aux questions qu'on avait discutées en amont, peut-être deux axes. L'axe de étudier l'ordinaire de la fabrique urbaine, ça j'en ai parlé, à travers la question de l'attention au détail, l'attention à l'urbanisme diffus, à travers tout un dispositif d'outillage technique pour voir comment évoluent les dossiers. Le fait d'utiliser l'ethnographie pour ça est très pratique. Être présent sur le long terme permet de voir un dossier quand il est déposé, quand il est traité en réunion, quand il est tranché, et à terme, une fois que l'autorisation est rendue, quid de la suite ? Est-ce que le chantier a été conforme ? Est-ce qu'on peut se permettre de rendre ce qu'on appelle la DACT, la déclaration d'achèvement de conformité des travaux ? J'insiste pas trop là-dessus, je pourrais m'étendre un peu trop longtemps. Mais en tout cas, c'est l'intérêt aussi d'être présent sur le long terme, d'avoir ce suivi-là. Et du coup, une série de questions en découle. Se dire, que se passe-t-il quand il y a un turnover dans les services ? Parce que ce sont des métiers qui sont des métiers très pivots, où les personnes ne se stabilisent pas beaucoup. Et là, je diverge un peu sur la sociologie des groupes professionnels, mais ce serait assez passionnant de l'observer, étant donné que, comme je le disais, l'expertise est détenue par certaines personnes un peu clés. Quand ces personnes s'en vont, quid ? Quid de l'histoire de la pratique administrative, quid de la doctrine du service, de la politique locale ? La question reste ouverte. Donc voilà, série de questions donc, qui renvoient aussi sur un rapport très matériel aux archives. Comment est-ce qu'on regarde sur une parcelle donnée, il y a 5 ans, quel était le dossier qui a pu être déposé et instruit ? Comment a-t-il été instruit ? Comment est-ce qu'on reste dans la doctrine, dans la pratique ? Et enfin, le suivi du terrain, mais ça j'en ai déjà bien assez parlé, je ne reviendrai pas dessus. Donc voilà, premier axe, étudier cet ordinaire de la fabrique, et deuxième axe, étudier cet ordinaire dans la fabrique. L'intérêt de l'ethnographie au service de l'enquête, là aussi, j'en ai déjà assez parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Et je terminerai peut-être cette présentation un peu généraliste, peut-être en livrant, dans la même lancée que Jean, un extrait de terrain qui me semblait intéressant peut-être pour venir décortiquer cette question de l'ordinaire, en vous offrant justement un ordinaire de réunion. Que se passe-t-il quand il y a débat sur un dossier en cours et il y a confrontation de postures, de vision du dossier et de vision du pétitionnaire, bonne foi ou pas, rapport moral est très présent aussi dans les discussions. Voilà, je livre ça et puis je passe la parole. Donc c'est un extrait d'une réunion du service instructeur d'une commune, durant laquelle, je vous l'ai dit, plusieurs dossiers sont étudiés, présentés aux collègues par les instructeurs pour avoir les avis. En l'occurrence, là, on est sur un dossier d'annexe, en fond de parcelle, au fond du jardin, un abri de jardin, somme toute, quelques mètres carrés d'emprise au sol, assez sommaire. L'instructrice en charge du dossier commence en présentant que tout est réglementaire sur ce dossier-là, sur les différents volets. Mais pose question la gestion des eaux pluviales, car on est sur un espace d'EBC, EBC, espace boisé classé, donc espace protégé en termes paysagers. Alors que pourtant il n'y a plus d'arbres, ils ont tous été abattus avant que la métropole, dans sa planification, protège cet espace-là, puisqu'on est en bordure hein, d'un bois. Mais le pétitionnaire avait pris les devants, il avait abattu tous les arbres avant que l'espace soit classé. Mince. Donc, elle est énervée, car il n'y a plus d'arbres, alors qu'elle souhaitait refuser ce projet, dans cette perspective d'interdire sur un EBC. Le directeur du service tempère, en rappelant que le déboisement, comme je le disais, était intervenu avant cette cristallisation par l'EBC. Et donc, un dialogue se lance entre eux. L'instructrice commence. « Est-ce qu'on refuse par rapport à l'EBC et ils mettent leur truc ailleurs ?» Le directeur répond « Pour les embêter ?»« Je sais pas. » »« Moi, je pense qu'ils ont déboisé parce qu'il n'y avait aucune contrainte. » Soit quoi l'instructrice répond « Normalement, ils devaient compenser. » Compenser, méthode de compensation, on déboise, on reboise ailleurs. Ils n'ont jamais compensé, et si tu vas dans ce sens-là, ils n'avaient pas la contrainte du boisement, mais ils avaient la contrainte de compenser tout arbre abattu. Le directeur répond, fais ce qui est le moins chronophage pour toi. L'instructrice termine, bah, c'est de laisser passer. Donc, entre-temps, l'autre instructrice dans la pièce a vérifié l'autorisation qu'elle avait précédemment accordée à ses pétitionnaires. Je la cite, « J'ai déjà dit favorable. » Alors moi, à partir du moment où il n'allait pas dans l'EBC, c'était bon. Sa collègue en charge lui répond, « Oui, mais moi, c'est la GEP, la gestion des eaux pluviales, qui me pose question. » Ce à quoi le directeur conclut, « Facilite-toi la vie. » Cet extrait est assez intéressant justement en matière de confrontation entre voilà, le jeu réglementaire et le rapport moral à la construction qui est projetée. L'échange entre l'instructrice et le directeur illustre pas mal de sujets. Le rapport qui est au projet soumis, la nécessité de garder une cohérence dans l'historicité. Là, j'en réfère au témoignage de l'autre instructrice sur le dossier précédemment instruit. Donc l'historicité du service vis-à-vis de la parcelle qui est concernée. L'équilibre entre contraintes de temps disponible et simplification procédurale. Et impact du projet et investissement de l'argent par le pétitionnaire, ce à quoi les services sont également attentifs. Donc tout ça vient s'entremêler dans ce très très court échange, mais c'est assez représentatif du quotidien de ces réunions qui peuvent être observées. Voilà, merci, désolé si j'ai été un peu long là-dessus.
Je vais peut-être juste faire une adaptation au vu des présentations que vous avez faites tous les deux qui sont assez riches et déjà assez denses. Et peut-être qu'on peut tout de suite réagir ou vous demander d'autres compléments et rester donc dans le sujet, dans vos sujets qui sont déjà bien développés, et ensuite passer peut-être sur les présentations de Nathan et Axel, si ça vous va comme ça. Oui, vous voyez pas de soucis. Donc voilà, c'était parce que bah effectivement, hein, les questions qu'on vous a posées sont aussi voilà, ouvrent pas mal de réponses possibles, et quand on est dans sa thèse, ben, on a toujours plein de choses à dire et envie d'en raconter énormément. Moi, j'ai envie peut-être de vous questionner tous les deux sur vos positionnements en fait en tant qu'enquêteur, en fait, que finalement comment vous menez cette enquête, comment vous êtes impliqué. Je pense à Jean qui nous a parlé de son passé, de son héritage familial, et on sent une forme d'engagement, presque de militantisme sur cet aspect de voilà, il faut développer le vélo, et donc voilà, la place du chercheur là-dedans aussi, comment un chercheur peut être militant ou pas, enfin voilà, comment tu gères un peu ça, et comment, voilà, quelle est ta place, ton rôle dans ces comment tu appelles ça, les commissions d'aménagement, je crois, finalement qu'est-ce que tu y fais, comment tu vas arbitrer, argumenter ben voilà, cette place du cycliste, et comment tu fais remonter cet ordinaire. Est-ce que tu te sers aussi peut-être de ta propre pratique ou pas? Est-ce qu'à ce moment-là tu peux la mentionner, ou tu es un porte-parole finalement des autres usagers auxquels enfin comment tu récoltes aussi, ça me fait penser à ça, cette pratique des autres usagers, hein, comment toi au sein de l'association tu peux capter tout ça finalement, parce que de ce que je comprends, il y a un rôle au sein de la collectivité, un rôle au sein de l'association. Et j'ai pas entendu à un moment quand tu disais que tu étais financé, j'ai pas entendu par qui, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait voilà, des conciliations du fait des financeurs, mais j'ai pas saisi, ça a coupé. Donc c'est juste pour repréciser. Et j'en profite un peu pour le même genre de question pour Solal sur voilà, ton investissement ethnographique. Alors j'ai compris que tu étais juriste et que tu avais fait un master ménagement. Ou en urbanisme, je ne sais pas exactement, mais voilà, comment tu te positionnes sur cette place d'ethnographe et d'observateur extérieur, comme tu le mentionnais. Voilà, dans ces réunions où je comprends qu'il y a un jeu entre directeur, directrice, instructeur, toi tu es là en observateur, tu peux participer aux échanges ou pas. Et voilà, et finalement, qu'est-ce qui se joue là? Tu dis qu'il y a une. Qu'est-ce qui fait que la décision ne se prend plus de manière binaire? Et du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est une forme d'ordinaire qui remonte là en disant oui, mais parce que dans ces conditions, on pourrait peut-être dire ça, mais non, parce que. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on s'est dit, bah tiens, on ne va pas trancher de manière aussi. Brut entre un oui ou un non, et on va aller accueillir cet ordinaire. Est-ce que c'est parce qu'ils vont sur le terrain, qu'ils discutent avec les pétitionnaires? Est-ce que ça veut dire que les pétitionnaires ont un nouveau pouvoir de faire finalement la ville, hein? Voilà, j'espère que mes questions sont claires, et si vous voulez bien nous apporter des éléments là-dessus.
Très bien, je vais commencer du coup en reprécisant les financeurs. Donc c'est Nantes Métropole et le CD44, donc le département de Loire-Atlantique, qui finance du coup une partie de la CIFRE, et puis la dernière partie étant financée par la NRT. Du point de vue de la posture, effectivement, ça c'est le nœud central, je dirais, de cette recherche, action, c'est quelle posture adopter au vu de mon passif qui n'est pas, je dirais, forcément cohérent du fait d'être un pratiquant plutôt sportif à la base avant d'arriver sur le déplacement quotidien. Donc il y a différentes casquettes, c'est vraiment une multiple personnalité entre lesquelles je jongle selon l'interlocuteur, et dans ces personnalités il y a notamment dans le cadre de la CIFRE, il y a le chercheur, du coup, sur lequel parfois l'association va se reposer pour faire passer des arguments auprès de la collectivité. Et aussi au sein de débats internes à l'association sur certains sujets. Il demande aux doctorants, aux chercheurs et à l'architecte technicien en plus, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que je pense sur. Tel type d'aménagement, comment gérer telle configuration d'intersection, la sécurisation des itinéraires cyclables. Donc il y a cette posture de chercheur, cette posture de technicien, architecte, qui a la capacité d'échanger de manière efficace avec la collectivité dès lors qu'on va travailler sur plan ou qu'on va questionner les phases de projet. Au-dessus de ça, il y a en flottement cette position effectivement militante. Je me cache pas de dire que j'ai fait cette thèse avec une intention plus ou moins militante, je dirais, de porter l'importance de la recherche sur le vélo, je dirais même mettre au jour ça pour permettre le développement de la part modale du vélo, pour des questions de transition, d'environnement et même de santé. Il y a cette posture-là aussi. Et donc maintenant, comment est-ce que j'arbitre au sein de l'association? Une association, c'est aussi quelque chose qui me fait je rebondis sur ce que disait Solal par rapport à l'expertise. Quand l'expertise s'en va, qu'est-ce que l'association devient? Et pour ça, malgré l'expertise technique, la question de recherche plus l'expertise pratique que je peux avoir au quotidien. J'ai, au vu du temps qui diminue au sein de l'association, j'essaye d'être de moins en moins interventionniste et de laisser une forme d'autonomie aussi aux bénévoles, puisque cette commission doit fonctionner en autonomie avec des bénévoles. Pour l'instant, on est deux salariés à temps partiel à travailler dessus. Le deuxième salarié va s'en aller. Et donc là, on est en train d'essayer de léguer tous les outils qu'on a pu produire, de léguer les méthodes de travail aussi, en sachant qu'on se rend bien compte que si on a eu une telle écoute de la collectivité, c'était en partie grâce à toutes ces méthodes, toutes ces manières de communiquer cette expertise qu'on a pu développer pour être pris au sérieux, en fait, puisqu'il y a voilà, les bénévoles de cette commission aménagement sont des bénévoles, donc parfois retraités, parfois non. Et il y a souvent de la prise de parole lors des réunions techniques, par exemple, tout à fait personnelle, ce qui peut mener parfois à des débats internes à l'association, mais en public, lors de ces réunions techniques, sur des accords par rapport à est-ce qu'un giratoire ou un carrefour à feu serait mieux sur telle intersection. Et donc, voilà, on essaye, en tout cas j'essaye moi, avec ma posture, de régler ces problèmes en amont au sein de l'association, pour qu'ils puissent s'exprimer en fait d'eux-mêmes, et surtout avoir cette représentativité de l'ensemble des cyclistes, puisque c'est vraiment ça, et c'est pour ça que la collectivité nous écoute, on est à même de présenter une forme de représentativité et des cyclistes du quotidien. Voilà, et donc la posture, forcément, ma posture personnelle va changer selon l'interlocuteur, selon le temps d'échange, que ce soit avec des bénévoles, que ce soit avec des techniciens. Voilà. Et c'est un arrangement continuel assez inconfortable que j'essaye de gérer, particulièrement pour ne pas influencer via moi ma vision personnelle de ce que serait un réseau cyclable adéquat, un système vélo qui fonctionne. Voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question.
Si, merci, c'est parfait.
Et bien, pour continuer, merci beaucoup. C'est en effet quelque chose que je n'avais peut-être pas assez éclairé sur la question de cet investissement ethnographique. Ce qui est assez amusant, et ce à quoi je n'avais pas pensé en arrivant dans cet espace d'enquête, c'est que j'allais étudier ce que j'aurais pu être, que j'aurais pu devenir, ces instructeurs et instructrices. Et justement, en arrivant en plus dans métropole, terrain local, enfin, je suis là où j'ai fait mes études, donc évidemment, il y a de la proximité et de l'affinitaire qui va se faire parce que je vais retrouver des anciens camarades de promo. Et justement, ces anciens camarades de promo, pour certains, sont devenus instructeurs, instructrices pendant un an, deux ans, trois ans, parce que c'est un métier qui est sous-valorisé pour qu'on y reste trop longtemps, parce que c'est catégorie C ou B souvent, la fonction publique. Et là, c'est pour ça que je parlais de sociologie professionnelle tout à l'heure, parce que justement, c'est assez intéressant à regarder, parce que ça va opérer aussi sur la pratique professionnelle. Donc sous-valorisé, donc voilà, pas assez de salaire, pas assez de reconnaissance professionnelle par rapport à l'activité exercée, donc on y reste peu, et ce qui va faire que ces anciens camarades voilà, vont rester là deux ans, trois ans, etc. Donc moi j'aurais pu reprendre ce chemin là si je n'avais pas été doctorant aujourd'hui. Donc à travers ça et à travers cette posture de se dire on ne parle pas le même langage forcément, parce que je n'y connais pas grand-chose à l'instruction. Enfin, quand je suis arrivé en janvier 2022, je dis en janvier 2022 parce que pendant le stage de recherche, époque Covid, donc malheureusement le terrain d'enquête, c'est un terrain par entretien interposé, mais pas par présence sur le terrain. Donc on ne parlait pas le même langage par rapport à l'instruction, mais on parlait depuis les mêmes positions, étant donné qu'on était issus du même monde des savoirs, du même monde professionnel. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui a facilité l'approche au terrain et l'immersion dans des espaces qui peut-être auraient pu être fermés dans d'autres circonstances. Et après, pour l'impact que ma présence faisait pendant les réunions, c'était pas forcément une implication systématique. Souvent, c'était, moi, à l'inverse, une posture silencieuse, d'écoute, de présence, on ne m'interpellait pas forcément. C'est arrivé des fois, dans la fameuse question, voilà, qu'est-ce que t'en penses voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en dis qu'est-ce qu'on tranche avec ça mais qui était plus de l'ordre du taquin que de la réelle demande d'expertise d'un chercheur qui aurait pu être praticien sur ce sujet. Donc cette posture-là, était assez facile parce qu'elle permettait de ne pas se positionner par rapport à mon terrain d'enquête et du coup de permettre d'ouvrir des portes au fur et à mesure. Et là, je m'apprête à ouvrir en parenthèse, il faut que je fasse attention à la fermer très vite. Mais
Récemment, justement, ça m'a permis aussi d'arriver dans les couloirs de Nantes Métropole, du côté planification. Parce qu'en ce moment, le PLUI de Nantes Métropole, qui s'appelle le PLUM, plan local d'urbanisme métropolitain, est en cours de modification simplifiée, ce qui impacte pas mal le rapport entre instruction et planification. Et les instructeurs sont conviés à des réunions pour voilà, discuter de qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de telle règle, etc. Et ça, c'est un espace qui m'a été ouvert justement parce que j'étais situé entre les deux. J'étais suffisamment diplômé pour être proche des chargés de mission de Nantes Métropole et suffisamment présent sur le terrain et sans me positionner par la prise de parole et par l'expression d'avis sur des dossiers pour que eux, justement, me placent dans une case. Donc voilà pour ce volet-là. Et sur la question des réunions, qu'est-ce qui fait que la décision devient non-binaire, pas systématiquement, mais en tout cas, en effet, il y a une forte proportion d'adaptation possible. Bah, premièrement, je reviens juste sur un volet qui est l'évolution de ces normes locales-là, avec l'apparition de ce qui est appelé règles alternatives dans les plans locaux d'urbanisme, ce qui va permettre une modulation des normes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'inscription dans le quartier permette un peu de déroger à certaines règles très quantitatives hein, à l'origine. Et cette initiative-là, en théorie, juridiquement en tout cas, est privée. C'est censé être le pétitionnaire qui fait la demande. Mais on voit aujourd'hui que dans beaucoup de services, une collectivité notamment que j'observe est spécialiste de ça, va l'invoquer d'elle-même pour faciliter la construction, pour faciliter la décision, la validation du projet. Bon, on tend vers des questions politiques et économiques, hein, de rapport à la construction. Mais c'est assez intéressant de voir justement quel usage est fait de ces dispositifs normatifs-là en fonction des postures et puis de la culture du service. Voilà par rapport à cette question des règles alternatives. Et deuxième volet, pour ouvrir un petit peu, c'est une observation que j'ai pu faire justement grâce à cette présence dans les services sur le long terme, c'est de voir que les autorisations en tant que telles et le délai administratif qu'elles ouvraient d'instruction, donc voilà, 2 mois, 3 mois, 4 mois, en fonction de quelle déclaration on parle, je ne détaille pas trop. En tout cas, ce délai-là était extrêmement contraignant pour les services instructeurs. On renverse le sablier du temps, on a autant de temps pour instruire. Malheureusement, c'est un temps qui ne suffit pas pour accumuler d'expertise technique et des avis extérieurs pour avoir un regard suffisamment fin sur le dossier, fin au regard de ce que souhaite le service, simplement. Donc, on va devoir créer un nouvel espace. Et ce nouvel espace, il s'appelle avant-projet. Et cet avant-projet qui n'est juridiquement, qui n'existe pas, hein, enfin, je veux dire, pas dans le code de l'urbanisme, c'est pas une procédure administrative ni rien, ce nouvel espace-là est devenu une norme. Même aujourd'hui, j'avais vu il y a quelques mois, la ville de Paris avait fait un communiqué hein, avec l'interview de l'adjoint à l'urbanisme, disait « Maintenant, si les porteurs de projets, de manière générale, ne viennent pas nous consulter en amont, de dépôt de projet, d'ouverture légale du temps d'instruction, il n'y aura pas d'acceptation du dossier. On le refusera systématiquement. Parce qu'on a besoin de discuter, on a besoin de négocier, on a besoin d'adapter tout ça. » Et donc ce nouvel espace de l'avant-projet se fait à tous les niveaux, hein, du petit comme du grand, et devient un nouvel espace normatif, parce que le temps est plus long, on peut faire des allers-retours, on peut modifier des pièces à la marge, ce qui légalement ne pourrait pas se faire forcément dans un temps d'instruction officiel, etc. Et ça facilite aussi, pour revenir sur la question initiale, le fait que la décision ne sera plus forcément binaire. Étant donné qu'on a, voilà, en tout cas ces deux volets, il y en a d'autres, hein, mais sur ces deux volets-là, des espaces d'adaptation et des espaces de négociation qui s'ouvrent, qui sont ouverts dans des stratégies de service. Voilà un petit peu là-dessus.
Merci pour vos retours, et puis je propose qu'on peut-être qu'on poursuive.